Vous voyez, c'est le dernier jour du salon, ça commence à devenir un peu dur pour tout le monde. Alors, première chose, je le disais déjà, mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées depuis. Vous avez toutes les excuses de Pierre Grimbert, qui ne sera pas parmi nous ce matin. Il a une extinction de voix, et donc il ne peut absolument pas parler. Donc il est passé sur le site, il est venu s'excuser, mais là, déjà hier, c'était limite, et là, ce matin, c'est carrément impossible, il ne pouvait pas participer à cette table ronde. Pour Pierre Pédel, on n'a pas de nouvelles, mais on ne désespère pas de le voir arriver. On va tout de même commencer cette table ronde autour de la vengeance. C'est un beau sujet pour un dimanche matin, avec deux auteurs, pour le moment, Pierre Gollon et Thomas Géa. On va...
Et Pierre Pével.
Et Pierre Pével.
On l'applaudit.
Non, non, mais prends ton temps, Pierre.
Mais j'ai une bonne excuse. Hier, on était samedi soir.
Pour ne rien te cacher, je m'en doutais un petit peu.
Désolé.
Non, non, pas de problème. On commence juste. On va donc s'intéresser à la vengeance. On va laisser Pierre reprendre son souffle. Et on va peut-être commencer avec Thomas Géa, tiens, puisque le sabre de sang, qui est un diptyque de fantasy, et on y reviendra d'ailleurs dans le courant de cette heure, débute sur une histoire de vengeance, véritablement, ou en tout cas une soif de vengeance, puisqu'on a un personnage qui est un soldat, qui se bat très durement, qui est fait prisonnier, et qui, à partir de ce moment-là, n'a plus qu'une idée en tête, c'est de se venger.
Oui, effectivement. Alors, c'est même plus qu'un soldat. Alors, le personnage s'appelle Tirik Sherna. C'est un noble qui appartient à un peuple qu'on appelle les Chao, et qui a participé à une guerre contre un autre peuple qui s'appelle les Kivien. Voilà. Et son peuple, à lui, a perdu, et il se retrouve en esclavage. Dans un convoi qui le mène vers la capitale de l'empire ennemi. Et sur sa route, il va rencontrer, enfin sur sa route dans le convoi, il va faire la connaissance d'un autre soldat qui s'appelle Kardel Jabaskar, avec qui il va se lier d'amitié et qui va aller avec lui jusque Ferza, la capitale de cet empire. Et effectivement, Tirik Sherna, c'est quelqu'un qui est, on va dire, très patriote, hein, d'une certaine façon, et qui est déjà tout de suite, dès le départ du roman, rongé par ce désir de vengeance par rapport justement à ce peuple qui a vaincu le sien et qu'il déteste profondément. Et aller justement dans le nid de vipère, si on veut, la capitale de cet empire, c'est quelque chose qui intensifie encore son désir et sa flamme de vengeance. Voilà.
Faut dire que ce peuple ennemi, en plus, est quand même assez peu... attirant.
Ce sont des reptiliens, voilà, humanoïdes, évidemment, mais qui effectivement sont très très différents des humains, donc qui sont presque de base assez répulsifs pour son peuple à lui. Voilà.
Pierre Pével, au royaume, on le sait là aussi d'emblée, il va y avoir une des trames principales qui sera une histoire de vengeance, puisque Lorne, quand on le rencontre, est libéré de prison. On va comprendre au fur et à mesure les raisons pour lesquelles on le sort de sa geôle. Mais ce qu'on comprend très vite aussi, c'est que lui, il a bien l'intention de profiter de cet espace de liberté qu'on va lui donner pour se venger de ceux qui l'ont envoyé là.
Oui, il en a gros sur la patate quand il sort de prison. Donc, on lui demande d'être un gentil garçon et ben, il n'est pas d'accord, quoi. Ce qui me semble une réaction assez naturelle. D'une manière plus large, faut reconnaître que la vengeance, c'est un moteur humain et donc un moteur à intrigue très très puissant qui, en plus, pour moi, ajoute à cette qualité mécanique assez évidente. D'avoir une dimension tragique assez claire et posée dès le début. C'est que, en règle générale, les vengeances, ça finit jamais bien. Ça finit rarement bien pour celui dont on se venge, mais pour celui qui se venge non plus, c'est jamais vraiment bon. Il y a un proverbe, enfin, que je vais paraphraser maladroitement, mais je crois que c'est un proverbe chinois qui dit que celui qui poursuit sa vengeance doit commencer par creuser deux tombes. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Et donc, ça introduit tout de suite une dimension tragique. On sait assez souvent que celui qui va se venger, même s'il triomphe, il ne s'en ressortira pas. Ou alors, du moins, il a déjà perdu. C'est, de mon point de vue, le thème de Monte Cristo, qui est l'histoire de vengeance emblématique. Et en fait, quand Dantès commence à se venger, il a déjà perdu. Il est déjà banni dans lui-même, il se sent, il est déjà mort.
Il n'a plus rien à perdre non plus.
Il n'a plus rien à perdre. Et donc, quand on n'a plus rien à perdre, c'est aussi qu'on n'a rien à gagner, en fait, souvent. Donc, avec la mécanique de la vengeance, c'est un moteur, d'une part, dramatique, au sens de la dramaturgie, mais également un moteur tragique très, très puissant.
Pierre Gollon, vous nous emmenez dans cet univers très particulier, qui est celui de Blizzard, qui sera une trilogie, on le dit, c'est le premier tome qui est sorti au début de cette année. On est dans un univers glaciaire, je pense qu'on en dira peut-être quelques mots au cours de cette table ronde. Et puis, alors avec vous, on verra parce que il y a des histoires de vengeance, en fait, dans Blizzard. On va peut-être commencer d'abord par celle qui est, pour dire un peu contredire un petit peu ce que vient de dire Pierre, mais la vengeance positive, on pourrait dire, qui est celle de Yak. Qui est Yak ?
Alors Yak, c'est un dresseur de tigres. Alors une vengeance positive. Alors dans quel
sens ? Oui, parce que il est victime.
Oui.
Puisque on peut le dire, son village et sa famille sont massacrés au début du roman.
Oui.
Et il décide donc de se venger de ça.
Oui.
Et c'est un personnage qui est quand même a priori un personnage plutôt positif.
Oui, qui part effectivement. Alors lui, c'est un peu l'antithèse des autres personnages. Il part dans une vengeance effectivement positive, et au fur et à mesure des tomes, je peux le révéler, il va devenir de plus en plus mauvais, en fait. Ça va être vraiment, il va vraiment évoluer différemment des autres personnages qui, à la rigueur, partaient en étant plus mauvais, qui vont plus changer positivement. Donc c'est un peu l'inverse des autres personnages.
C'est un solitaire déjà, hein, par rapport aux autres.
Par rapport aux autres. Alors les autres, ils sont isolés, mais par la force des choses. Alors que lui est de base assez solitaire. Il dresse son tigre tout seul. Il est un petit peu seul. Les autres, ils sont forcés d'être seuls, et c'est un peu ça qui va animer leur vengeance.
Puisqu'on est, faut le dire, dans un système politique un peu particulier, qui pourrait rappeler par certains côtés le régime de la terreur sous la Révolution française.
Oui, il y a un petit peu de ça. Alors en fait, par rapport à certains autres romans, ici, le mauvais régime, entre guillemets, c'est la Fédération. Alors que normalement, la Fédération est plutôt quelque chose de bon. Je vois dans pas mal de romans de fantasy, c'est plutôt la bonne chose. Ici, c'est plutôt... effectivement, ça fait passer le système de la Fédération est entre la terreur donc de 1793 et aussi un régime un peu stalinien avec un peu le stalinisme avec un système un peu plus russe en fait un peu dans ce système.
Et dans ce système-là, évidemment, on a un système d'oppression, forcément. Donc, on a des gens qui ne sont pas contents et qui ont été victimes, qui ont été bannis pour ceux qui ont réussi à survivre, ce qui est quand même assez compliqué. Et donc, évidemment, il y a cette volonté de prendre sa revanche.
Oui, et en fait, tout est axé sur ça. En fait, il y a un personnage, le personnage principal qui est l'inquisiteur, qui veut en fait éliminer toute forme de magie. Alors, je ne vais pas révéler pour quelle raison. Et il va donc envoyer en exil tous les ennemis de la Fédération en exil dans un territoire complètement glacé et qui s'appelle le Genolein. Voilà.
Donc on va revenir petit à petit sur ces événements et sur ce décor très particulier aussi qu'est celui de Blizzard, en précisant aussi que Blizzard, évidemment, il y a plusieurs sens, puisque c'est aussi le nom d'un des personnages, et pas seulement le vent glacial. Thomas Géa, dans le Sabre de sang, il y a donc cette soif de vengeance dont on a l'impression, quel est ce qui tient Tirik à la vie, vraiment, pendant toute sa captivité. Ça devient sa raison de vivre, en fait.
Sa raison de vivre, c'est son peuple. Donc, sa raison de rester en vie, c'est de prendre sa revanche et de prendre, par la même occasion, la revanche de son peuple entier. Et effectivement, c'est ce qui va le tenir profondément ancré dans une rage extrême, qui va aussi, c'est pas totalement du spoiler, mais qui va lui donner une gradation justement dans sa rage, et qui va le rendre tellement enragé que très vite, il va aussi avoir des œillères par rapport à ce qui se passe autour de lui et aussi forcément par rapport aux personnes qu'il a rencontrées, dont son frère d'arène, son frère de chaîne, qui s'appelle Cardelge. Voilà.
Donc il a cette envie absolue et oui, comme vous le disiez, ça lui met vraiment des œillères, ce qui fait que bah voilà, il y a des moments où il va. Et ça, c'est un thème peut-être aussi connexe, c'est que finalement la vengeance, ça rend aveugle. Hein.
La vengeance rend totalement aveugle et c'est effectivement, comme disait Pierre, justement, quand on doit creuser sa propre tombe en même temps que celle de qui on doit se venger. Oui, Tyrick fait exactement ça et il oublie justement de regarder autour de lui. Ce que ne fait pas justement l'autre personnage principal de la série, qui est Cardelge, et qui est justement le héros du tome 2. Alors, parce que c'est vrai que c'est un diptyque qui est construit de façon assez particulière, c'est qu'on a deux personnages principaux différents, donc Tyrick Cherna dans le premier roman, et dans le deuxième roman, Cardelge Abascar. Donc on a deux types de vengeance qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre aussi. Tyrick qui est une vengeance extrêmement irrationnelle, et extrêmement violente. Celle de Cardelge est beaucoup plus sage et beaucoup plus assagie aussi avec le temps et avec l'évolution du roman. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce soit un personnage qui soit épargné justement par les conséquences de la vengeance de Tyrick.
Parce qu'il y en a un qui a cette colère absolument incroyable en lui, c'est Tyrick, qui finalement finit par le submerger complètement.
Totalement, mais alors ça effectivement c'est un petit peu le point principal et le point d'orgue du premier roman, c'est la façon dont Tyrick va pouvoir exercer sa vengeance avec, alors ça s'appelle le sabre de sang, avec la découverte effectivement d'un sabre, et un sabre qui est magique, voilà.
On n'en dira pas plus, voilà. Il faudra que vous lisiez le diptyque. Pierre Pével, je me souviens quand vous avez annoncé la sortie du premier tome du Haut Royaume, vous nous avez parlé d'une beaucoulogie. Je me souviens, un mot que j'avais beaucoup...
Un terme technique assez rare.
Mais alors justement, ma question c'est, quand on a une histoire de vengeance, et on sait que la vengeance est un plat qui se mange froid, et qu'on envisage d'en faire un des principaux fils narratifs d'une beaucoulogie, comment est-ce qu'on s'y prend justement? Est-ce que ça permet d'avoir, contrairement à ce qu'on vient de dire avec Thomas, où on a quelqu'un qui agit avec fougue, avec colère, et donc finalement dans un certain empressement, est-ce que là, il y a justement plus le temps de mettre en place cette vengeance, d'élaborer des plans machiavéliques?
Oui, il y a ça. Il y a, bon, en plus, bon, c'est comme le faites remarquer.
On ne se voit que pendant le...
Ouais, d'accord, c'est très étrange. Donc, cher monsieur, comme vous le faites remarquer, le fil narratif de la vengeance n'est qu'un des fils narratifs de la série, qui c'est une beaucoulogie parce que j'ai la prétention de raconter beaucoup d'histoires différentes dans ce monde-là, mais avec différents cycles, peut-être même à différentes époques, et en tout cas avec différents personnages, ou alors avec des interactions. Le personnage principal d'un volume devient qu'un personnage secondaire, ou même un nom cité dans le volume suivant, ce genre de choses. Pour ce qui est de la trame narrative de la vengeance de Lorne, en l'occurrence, l'avantage d'une vengeance, c'est que c'est quelque chose qui se transmet très très bien, c'est un peu comme une maladie vénérienne, et ça peut se transmettre de mère en fille, de père en fils ou de père en fille.
C'est que ça va trister ça.
vous pouvez me tweeter. Vous pouvez me tweeter. Non, mais sérieusement, quoi, c'est que c'est dynastique, une vengeance. Enfin, ça peut l'être surtout dans une histoire où on prétend mettre un souffle épique.
C'est le côté corse du truc.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, quoi. Donc, si vous imaginez, si on peut se faire comme dans Astérix des guerres centenaires pour un âne boiteux et un sac de figues, qu'est-ce qu'on fait pour un royaume et un trône, quoi. Donc, non, c'est alors, rien que pour ça, c'est très très intéressant. Le thème peut ressurgir plus tard. On peut tout imaginer, vraiment, moi-même là je suis pas fixé, donc j'en ai vraiment des idées au hasard, mais ça peut être un héritier perdu qui a ressurgi tout d'un coup pour se venger en disant car c'était moi, ou ce genre de choses. La vengeance c'est vraiment très très très... c'est pain béni pour un romancier. C'est vraiment c'est pour ça que c'est pas contrairement à l'intitulé de cette table ronde ou de ce café littéraire, je sais pas bien où on est.
Oui, c'est un peu pareil. Oui, normalement, c'est café littéraire, surtout à cette heure-là.
Oui, donc un café littéraire noir et fort. Voilà. Contrairement à l'intitulé, C'est pas un cliché particulier à la fantasy, c'est un cliché particulier à la littérature d'aventure, je crois. La preuve en est que c'est qu'il n'y a pas d'histoire de vengeance que dans les ouvrages de fantasy. Il y en a même un peu partout, jusque dans le polar, quoi. C'est vraiment, c'est un moteur humain évident. En plus, qui pose des questions intéressantes. Je sais pas si vous l'avez dit, cher monsieur, en préambule quand je n'étais pas là. Il faut faire la différence pour ce qui est du moteur du personnage entre la quête de la vengeance et la quête de justice. C'est pas exactement la même chose. Et un des intérêts, précisément narratifs, c'est que le personnage principal peut ou pas confondre les deux choses. En gros, on tue ma famille, je veux poursuivre ceux qui ont fait ça et les traîner en justice pour qu'ils soient jugés et punis pour leurs crimes. Ça, c'est la quête de justice. Je veux les poursuivre pour les égorger et leur faire exactement ce qu'ils ont fait, voire pire que ce qu'ils ont fait à ma famille. Ça, c'est la quête de vengeance. Et un personnage peut confondre ça, ou il peut commencer légitimement avec une quête de justice, ça devient une quête de vengeance quand les choses tournent mal, ou alors l'inverse, quand lui-même évolue vers une sorte de rédemption, il commence par vouloir se venger, et finalement il se rend compte qu'il va vers sa perdition, et soit il renonce, soit il transforme sa quête en une quête de justice. Je crois qu'il y a un bon western avec Steve McQueen qui est sur ce thème, plus ou moins. Il poursuit des types et il se rend compte déjà qu'il poursuit pas les bons, et puis bref, c'est donc oui, dans le western aussi. Alors, combien de westerns qui fonctionnent sur la quête de la vengeance, enfin, ou du moins le moteur, c'est la vengeance. C'est vraiment très développé. Donc oui, c'est vraiment bien. Et puis ça peut, comme je l'ai dit rapidement, ça peut tout révéler du personnage, en positif comme en négatif. Il peut courir vers sa perte et s'assombrir de plus en plus. C'est sans trop gâcher de choses, c'est quand même plutôt ce qui arrive à mon personnage Lorne.
En tout cas, au fil du premier tome, c'est ce qu'on ressent.
Voilà, c'est ça, il va vraiment... Et puis, de toute façon, c'est presque dit dès le début. Là, je fais une courte parenthèse, la fantasy... Enfin, moi, je suis sans vergogne, j'utilise toutes les armes que la fantasy met à ma disposition. Et il y a une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut véritablement marquer les héros du sceau du destin, mais physiquement. Et j'ai pas hésité à le faire. Mon héros est marqué par une force obscure qui l'imprègne même dans sa chair. Il a un sceau sur la main. Enfin, je veux dire, toute sa perdition, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut, donc... Il n'y a aucun doute. Mais, à contrario, on peut avoir des héros qui, via la vengeance, vont évoluer vers du mieux, ou alors être encore plus ambigu, c'est faire une vengeance sanguinaire qui, finalement, a des effets positifs. Alors là, ça pose des questionnements moraux assez puissants.
Pierre Gollon, c'est intéressant ce que vient de dire Pierre Pével, puisque vous êtes plus un auteur de thriller, justement, qu'un auteur de fantasy. Donc, j'imagine que vous devez vous reconnaître parfaitement dans ce que vient de dire Pierre.
Oui, tout à fait. Dans le premier roman que j'avais écrit, c'est La mort en rouge. La phrase de citation, pour commencer, c'est un proverbe afghan qui dit que, justement, la vengeance de 100 ans garde encore ses dents de lait. Donc, on voit bien que c'est quand même un thème qui... dans le polar en tout cas, ou dans le thriller, est assez prédominant, et moi j'en fais même. Mais,
La géographie de la vengeance a quelque chose d'assez intéressant aussi. Hein. C'est ça. Oui, la Corse, l'Afghanistan, c'est bien. Des endroits très calmes.
Ouais, la Bretagne, ouais. Mais quand bien même, dans le thriller, quand même, ce serait que le moteur, le motif du crime, par exemple, ça va être la vengeance. La vengeance ne va pas nécessairement articuler tout le bouquin, mais ça peut être le motif, le mobile...
Et là, alors, on retrouve donc cette vengeance qui émane aussi finalement de ce personnage central qui est l'inquisiteur. C'est lui aussi quelque part, même s'il a le pouvoir, même s'il l'exerce, et il l'exerce d'une manière tyrannique et violente, il est lui aussi dans une quête de vengeance.
Oui, en fait, c'est ce qui fait le point central. C'est-à-dire qu'en fait, l'inquisiteur, c'est un surnom qui lui est donné justement parce qu'il essaie d'éliminer toutes les forces magiques de ce monde, est un personnage qui est mort à la base et qui a été ressuscité par la magie. Et lui, en fait, c'est une vengeance sur le fait d'être en vie.
C'est qu'en fait, il était bien quand il était mort.
Il était bien quand il était mort, et en fait, il a été marqué par le sceau de la mort, et il essaie donc de se venger. Mais en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est que je pense qu'il faut... Il faut prendre en compte la crudité de la vengeance, son essence même, en fait. C'est pas, et elle est issue de l'amour, en fait. C'est-à-dire qu'on a essayé de le sauver de la mort, et c'est ce qui en fait, c'est un acte de charité, un acte d'amour de la personne qui a essayé de le sauver, et c'est ça qui provoque cette vengeance, qui va avoir une sorte d'effet papillon, et qui va se propager de fil en fil à tous les personnages du roman.
Thomas Géa, il y a... Dans le premier tome du Sabre de sang, C'est un vrai road movie, si on peut dire, puisque ça se déplace quasiment sans arrêt. Il y a juste quelques scènes dans la capitale de ce monde reptilien assez, assez particulier, et où là aussi on voit s'exercer d'une certaine manière la colère de Tyrick, déjà, puisqu'il y a quand même quelques scènes de massacre assez violentes. Est-ce que justement aussi, dans la deuxième partie de ce premier tome, où il fuit, où il essaie de se mettre au vert en attendant son heure, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui ne fait qu'alimenter sa soif de vengeance et sa colère ?
Alors déjà, c'est vrai que c'est un road movie, ça c'est une évidence, parce que je suis très très marqué par un auteur en particulier qui s'appelle Jack Vance, et qui est un spécialiste de la vengeance aussi d'ailleurs, puisque si vous avez lu La geste des princes démons, c'est une des plus belles histoires que j'ai pu des plus belles histoires de vengeance que j'ai pu lire en science-fiction, et où le personnage justement mène une quête de justice par rapport à sa famille qui a été décimée, mais qui est absolument pas une vengeance personnelle. Et d'ailleurs, à la fin de La geste des princes démons, sans dévoiler les choses, c'est Kirst Gersen, le personnage principal. Quand il a assouvi la vengeance et la quête de justice qu'il mène, il n'existe plus. Voilà, il cesse d'exister. Donc c'est quelque chose d'assez marquant à la fin de cette série. Et donc moi, c'est vrai que Tyrick Sherna et Cardel Abascar, j'ai voulu un petit peu les gérer de la même façon qu'aurait géré, que Jack Vance aurait géré ses personnages. Donc le road movie, il vient plus du cycle de Chai, par exemple, hein, où les personnages sont toujours en mouvement. Et j'ai rajouté effectivement ces éléments un petit peu de vengeance derrière. Et le voyage est effectivement un moyen absolument parfait pour faire évoluer les personnages par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre intérieurement. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de leur faire raconter leur histoire, que ce soit Cardage ou Tyrick, à la première personne. Hein, voilà, hein, on vit vraiment à l'intérieur d'eux. Et Tyrick, dans le premier tome, il est enragé au départ, comme je disais. Il a une colère un peu plus rentrée vers la fin. Et la découverte du sabre lui donne l'argument de sa vengeance. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question.
Non, c'est bien ça. Mais simplement, l'élément aussi intéressant, c'est que dans ce voyage dans lequel on le suit dans le premier tome, dans la première partie, il est enchaîné. Donc, on ne peut pas forcément dire que ça calme de se retrouver dans une situation pareille. Et dans la deuxième partie, il fuit. Donc finalement, l'impression qu'on peut avoir, c'est que ce qui nourrit aussi sa colère, c'est qu'il ne peut pas agir comme il le voudrait. C'est-à-dire qu'en gros, prendre tout le monde et puis tout démolir. Quoi.
Effectivement, c'est parce qu'il nourrit une très très grande frustration, et que cette frustration le rend encore plus, mauvais. Parce que Tyrick, je prends malin plaisir effectivement à le rendre... attachant, hein. Enfin, j'essaye en tout cas. Mais,
Dans le premier tome.
mais effectivement, on voit déjà dans le premier tome qu'il a des sautes d'humeur assez, assez intenses. Et quand il a des sautes d'humeur, vaut mieux pas traîner dans le coin. Voilà. Et Cardel Jabaskar, donc son compère, c'est plutôt celui justement qui absorbe toute cette colère et qui lui sert un petit peu de sage. Voilà. Et qui est là pour le conseiller, pour le calmer. Mais des événements qui ont lieu à la fin du sabre de sang 1 vont totalement faire exploser cet état de fait. Et là où le sabre de sang finalement 1 est une vengeance à la fois personnelle et politique, voilà, à grande échelle, on va dire que le tome 2 sera plutôt à développer une vengeance personnelle, mais uniquement personnel, ce qui n'a aucun lieu d'être sorti justement des événements politiques qu'a subi ce continent. Voilà.
Pierre Pével, on a parlé jusqu'ici de la vengeance sur un plan très personnel, qui est autour du personnage de Lorne. Sauf que dans ce premier tome, on se rend compte que... lui, il a bien cette idée de vengeance en tête, mais on sent bien que derrière, il y en a d'autres qui se sont peut-être posé aussi le même questionnement à son propos, et que finalement, il ne maîtrise rien, il est totalement manipulé, ce garçon. Est-ce que justement la vengeance, ça peut être aussi ça, c'est que ça devient un outil de manipulation de la personne qui cherche à se venger ?
Oh ben, je pense oui, dans la mesure où on a, comme on l'a dit précédemment, la vengeance peut un peu aveugler, comme la colère ou l'avarice, ou plutôt la vénalité. Oui, dans ce cas-là, ça peut être un outil employé par d'autres comme un outil de manipulation. L'ordre reste le moteur de l'histoire. C'est lui qui agit et qui va où il veut. Mais en l'occurrence, oui, il y a d'autres intérêts que les siens qui sont en jeu. Et parmi ceux qui se livrent une autre bataille que la sienne, il y en a qui l'utilisent, ou du moins, plutôt que d'utiliser l'orne comme un outil, profitent de ce qui peut motiver l'orne pour eux-mêmes obtenir ce qu'ils désirent. L'orne est vraiment marqué par le destin, non seulement par son destin particulier, mais par un destin plus général qui devrait l'amener, pour résumer les choses, à sauver le monde, sauf que lui refuse son destin général, son destin historique, et ne s'intéresse qu'à son destin particulier. Il fait juste semblant pour ce qui est du destin historique.
Il faut dire qu'au moment où il sort de prison, et on le redit, hein, c'est pas parce qu'il a fini sa peine, hein, on sent qu'il y a quelque chose derrière cette libération, ça arrive à un moment donné où le royaume est plus que vacillant.
Oui, tout va mal. Du coup, il incarne pour d'abord le roi, un roi qui est maudit, malade, mourant, réduit à l'état de mort-vivant, de liche. Il incarne l'espoir de restauration de son propre pouvoir, de pouvoir royal, légitime, ou du moins dynastique. Légitime, c'est peut-être beaucoup dire. Mais en côté de ça, lui, il comprend très vite quel jeu il peut jouer. Il se rend compte que s'il veut se venger de ses ennemis, étant très puissant, il doit lui-même devenir puissant, et il profite des armes, enfin des moyens qu'on met à sa disposition. En particulier, il s'arrange pour très vite incarner l'espoir aux yeux du peuple. Donc en fait, il se comporte vraiment. Dans l'écriture, je n'ouvrais pas des portes sur la lame de l'orne, si on suit ce comportement, grosso modo, il se comporte vraiment comme un héros de fantasy. Il devient très vite très populaire, il sauve les gens, il restaure l'autorité royale, etc. Sauf que lui, il ne fait pas ça pour être un héros de fantasy. Il ne sait pas qu'il est un héros de fantasy, d'ailleurs. Il sait juste qu'on l'a mis dans une prison horrible, qu'on l'en tire en prétendant effacer l'ardoise et on va recommencer où on s'était arrêté. Mais lui, ce n'est pas du tout ce qu'il veut.
Alors que c'était quelqu'un d'extrêmement loyal.
C'est là où c'est vraiment intéressant. C'est de partir d'un type. Avant d'être accusé de trahison, de haute trahison, et sommairement jugé et jeté en prison, il avait tout pour lui. C'était un jeune chevalier, beau, noble, loyal, fidèle à son roi, dont les mérites étaient reconnus, qui allait faire un beau mariage politique et d'amour avec une fille splendide. Enfin, il avait vraiment tout pour lui. Et là aussi, il a été aveuglé, parce que bien qu'on l'ait prévenu à l'époque, attention, ça commence à sentir mauvais. Il a dit non, tout va bien. D'ailleurs, j'ai rien à craindre. J'ai mon bon droit pour moi. Tragique erreur.
L'honneur ne fait pas tout. Pierre Gollon, on est dans cet univers glaciaire, et alors, on l'a dit, c'est qu'on a une galerie de personnages où tous ont des motifs de se venger, finalement, les uns des autres, hein, quasiment, ou en tout cas, une partie, un ennemi commun, qui serait donc cet inquisiteur qui lui-même est dans une quête de vengeance. Et puis alors, ce premier tome nous parle des esthètes. Alors, on va avancer un petit peu vers la fin, donc on va essayer d'être prudent dans ce qu'on raconte, mais est-ce que justement les esthètes, c'est pas un peuple qui lui n'a pas du tout cette notion-là de vengeance ?
Alors oui, effectivement, les esthètes, c'est un peuple souterrain pur, assez pur en fait, dont le but est de magnifier tout ce qu'il touche, le peuple ingénieur en fait, hein, une sorte de peuple ingénieur qui veut essayer de rendre pur tout ce qu'il touche. Effectivement, ils sont très pacifiques, ils n'ont pas cette notion, ça ne fait pas partie de leur culture. Mais pourtant, effectivement, à la fin du premier tome, on sent que c'est en train de se modifier. Et je pense que la couverture est assez représentative, parce que le territoire des esthètes, c'est ce qui s'appelle les collines noires, on le voit sur le livre, c'est cette montagne-là. Et la seule qui est épargnée par le froid glacial qui se répand. Et en fait, le climat est assez important dans ce roman parce qu'il représente en fait cette vengeance et cette, ce sceau de la mort qui se répand dans le territoire. Et on voit bien, et donc sur la couverture, que la montagne est en train de se recouvrir. Et donc cette vengeance et ce côté... oui, cette vengeance est représentée par ce climat qui va se répandre comme une mort, en fait, une mort glacée sur le territoire.
C'est terrible ce que vous êtes en train de nous dire, parce que moi je vous parle d'espoir avec un peuple qui finalement donne le bon exemple, et vous nous dites non, ils vont être gagnés par les mêmes turpitudes que les autres.
C'est ça, mais exactement.
C'est épouvantable, il n'y a plus d'espoir.
Si, l'espoir est quand même en filigrane dans ce roman, on le ressent plus effectivement dans le second tome, et en fait je parle du climat parce que...
Sortira l'automne.
Voilà, en septembre. Et donc, en fait, le climat est très important parce que la notion d'espoir, au final, c'est associé au beau temps. C'est-à-dire que vous avez... c'est peut-être le fait que je sois de la région du Sud qui fait ça. Non, mais en fait, c'est effectivement le territoire est pris par une sorte de malédiction glacée, en fait. C'est-à-dire que
qui coïncide à l'arrivée de l'inquisiteur au pouvoir.
C'est-à-dire qu'à la base, le Gelonein est un territoire verdoyant où il est agréable de vivre. Et avec l'arrivée de l'inquisiteur, va arriver cette ère glaciaire presque instantanée. Et en fait, dans le deuxième tome, vous avez des retours, justement, dans le passé où on a vraiment cet univers verdoyant qui représente effectivement cet espoir naissant.
Il faut dire que c'est très surprenant parce que la première scène est une scène de chasse où je me suis sérieusement demandé, mais parce que j'avais pas encore totalement toutes les clés, je me suis dit mais on est dans de la fantasy préhistorique.
Oui, en fait, mon but c'était de créer un monde assez épuré et de mettre les lecteurs dans les mêmes conditions que les personnages. C'est-à-dire que quand vous lisez le début, vous ne savez pas si c'est sur Terre, vous ne savez pas si c'est dans un monde inventé, vous ne savez pas à quelle époque ça se passe, si c'est plutôt médiéval, si c'est plutôt futuriste. On sait trop rien. En fait, les lecteurs vont le découvrir avec les personnages. Il n'y a pas de très longue description du monde, ils sont vraiment immergés dedans.
Thomas Géa, on l'a dit, donc il y a effectivement un twist à un moment à la fin de ce premier tome, il y a un retournement de situation qui fait que la situation va vraiment changer et que le deuxième tome sera dans une manière d'envisager les choses totalement différente. Mais vous l'avez dit, finalement, la question c'est comment conserver la raison quand on est en quête de vengeance, puisqu'on a un personnage qui reste malgré tout raisonnable et un personnage qui va lui complètement péter les plombs.
Bien, effectivement, parce que c'est vrai que le roman s'articule finalement sur une double vengeance, donc celle de Tyrik et celle de Cardelge. Autant préciser tout de suite que Tyrik, la raison, il ne va pas vraiment la garder. Hein. C'est, bon, je ne vais pas en dire plus, mais c'est pas quelqu'un de raisonnable, quoi qu'il en soit. Et en plus, d'autant plus coupé de quelqu'un qui est le conseiller comme Cardelge. Cardelge, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les deux romans ne sont pas du tout écrits de la même façon. Hein. Comme je disais, le premier tome est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sec, parce que, comme je disais, Tyrik voit le monde avec des œillères. Cardelge, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup plus le monde, qui s'attache beaucoup plus aux détails.
Il y a un officier, un soldat, hein, ça joue aussi. Hein.
Oui, c'est un officier, mais qui est plus réfléchi que Tyrik. Et comme je disais, c'est une double vengeance. Donc une qui va être assouvie, quelque part, celle de Tyrik, et une autre qui chaote, celle de Cardelge. Pourquoi ? Parce que, comme je disais, il y réfléchit, effectivement, mais que la raison de sa vengeance, qui techniquement est dans le premier tome, va se calmer d'une certaine façon dans le tome 2 par des rencontres qu'il fait. Il va être recueilli par des pirates, qui vont quelque part le restructurer en tant que personne. Et il va aussi rencontrer d'autres personnes qui vont atténuer les douleurs qu'il peut avoir. Donc la raison de sa vengeance chaote à un moment donné, et il est très proche même d'y renoncer. Donc,
parce qu'il a autre chose finalement.
Il a trouvé effectivement des liens affectifs qui le mènent à penser que sa vengeance est totalement inutile. Sauf que la vengeance, elle peut être totalement inutile, mais elle peut être nécessaire. Et c'est cette réflexion-là que mon personnage va avoir et qu'il va devoir explorer dans la suite du tome 2, évidemment. Quoi.
Et c'est vrai que la rencontre entre les deux personnages principaux va changer énormément de choses, puisque du coup, ils vont aussi eux-mêmes s'influencer l'un l'autre. Et le regard que portent l'un et l'autre est aussi lié finalement à la relation qu'ils entretiennent.
Parce que dès le départ, je l'ai décrit comme deux personnages qui sont devenus indissociables, parce qu'une amitié très très forte les accompagne. Quoi. Voilà, ce sont vraiment deux frères de sang. Ils ont combattu dans les arènes de la capitale qui viennent ensemble. Ils ont vaincu des araignées de guerre. Bon, enfin, voilà, c'est
magnifique scène.
C'était pas facile. Gladiator m'a un peu aidé, j'admets. C'est le côté épique que je voulais un petit peu retrouver dans ces romans. Et effectivement, c'est.
Les lectrices qui vont vous détester, Thomas Géa, vous le savez.
j'ai eu plein de lectrices qui ont juste adoré cette scène-là et qui m'en parlent tout le temps. Quoi.
Trucider des araignées géantes, oui, forcément.
Ah, mais j'ai pas mis de souris, c'est pire les souris. Mais bon, comme leur amitié est vraiment a priori indéfectible, c'est aussi ce qui va faire que. La scène de face-à-face, parce que le face-à-face est évidemment...
inévitable.
Voilà, inévitable. Et le point d'orgue de la fin de ce second tome, le face-à-face va rendre à cette vengeance toute cette tragédie, hein, comme en parlait Pierre. Voilà, hein, où il disait que les deux tombes sont creusées. C'est évidemment presque ça. Mais à la différence près que, justement, le parcours de Cardelge est peut-être justement un moteur qui peut éviter justement à cette deuxième tombe éventuellement d'avoir un occupant.
Pierre Pével, est-ce que la quête de vengeance est nécessairement solitaire?
Je pense que ça doit isoler la vengeance, ouais. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a toutes les chances que la vengeance qu'on désire exercer soit illégale. Donc répressible, donc il vaut mieux se cacher pour arriver à ses fins. La deuxième, c'est que comme toute passion au sens premier du terme, quoi, quelque chose qui est douloureux, la passion, c'est censé être quelque chose de douloureux dans le sens premier. Donc comme toutes les passions, elle isole la personne qui l'amène à son terme. C'est d'ailleurs on revient à ce dont on parlait au début, et que ce soit pour le héros des princes démons ou pour Monte Cristo. Monte Cristo ne disparaît pas physiquement, mais retourne à l'oubli, il s'évanouit dans les ombres. C'est la même chose finalement, sauf que dans un cas, on a les armes de la fantaisie qui permettent de faire vraiment disparaître les gens. Oui, c'est bien pour ça, c'est que ça isole, ça déshumanise très certainement. Et puis souvent, en particulier dans les romans ou dans les destins réels et véritablement tragiques, la personne finit par se confondre avec sa vengeance, d'où cette fin inévitable qui est dès que la vengeance est accomplie, la raison d'être disparaît également et l'existence peut également cesser.
On l'a dit avec Pierre Gaulon à propos d'Iac, on l'a dit avec Thomas à propos de Tirik. C'est le cas aussi avec Lorne, c'est que finalement, cette vengeance, elle fait aussi ressortir le côté sombre de l'humain.
Ah oui, nettement, oui, oui. Moi, je pense pas que ce soit l'un des sentiments les plus nobles. Il est immédiat, il est compréhensible. Souvent, c'est le sentiment de vengeance qui est amené comme argument, par exemple, pour des peines un peu plus expéditives, voire définitives en matière de justice. Mais si on avait fait ça à ton enfant, est-ce que tu voudrais pas que cet homme meure? Et la réponse à apporter, c'est précisément pour ça que c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Mais évidemment que quand on fait du mal à nos proches et on a envie de se venger et on est prêt à tout et on devient une bête de douleur, de haine et prêt à toutes les extrémités, et c'est précisément pour ça qu'il faut pas que ce soit les principaux intéressés qui décident. C'est toute la différence entre la vengeance et la justice, et entre la passion et la raison, je pense.
Là encore, on l'a dit, hein, c'est un instrument de force qui lui sont sans doute supérieurs. Hein, ce pauvre Lorne, en tout cas, quand on le retrouve, il est assez mal en point, mais il a encore cette espèce de noblesse en lui et de courage indéfectible. Mais il se lance quand même dans une quête où lui-même n'a aucune notion finalement de ce qui va dépendre de lui finalement.
Des choses le dépassent. Ceci dit, on lui dit assez rapidement, il y a un personnage qui est une figure de mentor, même si c'est pas un mentor qui le forme, mais c'est un mentor qui lui explique un peu la vie, et qui lui dit que l'élément principal de l'ordre au début, c'est qu'il renonce à son destin historique, celui au nom duquel on l'a sorti de sa prison, parce que c'est pas pour lui faire plaisir qu'on l'a sorti de prison, c'est parce qu'il semblerait qu'on ait vraiment besoin de lui, quoi, dans un avenir proche.
Dernier recours.
Voilà, c'est ça. Donc, lui refuse son destin historique, mais en refusant à ce destin, dans un premier temps, lui, il part pour... il veut plus entendre parler de personne. Ce qu'il a subi l'a rendu presque fou et en tout cas désabusé. Et dans un premier temps, il veut juste partir. Renonçant donc à son double destin, le destin personnel et son destin historique. Les gens d'autres puissances dans cet univers se foutent complètement de son destin personnel, par contre son destin historique, ça les intéresse. Et donc on envoie quelqu'un qui lui explique que, mais en fait, s'il veut vraiment arriver à terme, s'il veut savoir, comprendre, il va falloir qu'il fasse des concessions, la principale étant d'accepter son destin grandiose. Ce qui va... Et du coup, lui, il dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, bah, autant en profiter. Donc oui, je vais être le chevalier que vous attendez de moi, mais je vais m'en servir et vous allez le payer.
Alors Pierre vient de dire un mot très important, c'est le mot comprendre. Pierre Gollon, j'ai aussi l'impression que c'est une des thématiques fortes de ce premier tome, de cette ouverture de votre trilogie, c'est que justement, que ce soit le lecteur ou un certain nombre de personnages, il y a cette nécessité de comprendre.
Oui, et la compréhension, j'ai justement eu certaines remarques de lecteurs, parce qu'ils me disaient, mais on n'a pas tous les éléments de réponse dans le premier tome. En fait, je voulais un peu le faire un peu à la thriller, c'est-à-dire en garder un peu sous le pied et développer les réponses vraiment sur les trois tomes, en garder un peu pour la suite. Et chaque personnage, on ne comprend pas au début toutes les motivations des personnages, pourquoi est-ce qu'ils vont essayer de cette vengeance. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qui les anime vraiment, quels sont vraiment leurs buts. Et la vengeance, ça paraît un peu, au final, comme une quête initiatique, au final.
Yak, par exemple, lui, ce qu'il cherche à comprendre, c'est pourquoi on a massacré son village et sa famille, alors que manifestement, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, il n'y avait pas spécialement de conflit dans le coin, qu'il n'y avait pas de magicien, puisque c'est aussi un des enjeux, qu'il y avait, voilà, il n'y avait rien qui nécessitait que d'un seul coup, on raye ce village de la carte.
Exactement. Vraiment tous les personnages, que ce soit Chasseur, qui est notre personnage, un des personnages principaux de ce roman, on ne sait pas trop, pareil, pour qui il est et pourquoi il veut se venger. Yak, on ne sait pas pourquoi son village a été massacré. Les rebelles du Kaba qui sont enfermés donc dans leur galerie souterraine, on ne sait pas trop vraiment pourquoi ils veulent se venger. En fait, leurs destins sont en fait liés. Et on va le comprendre au fur et à mesure du roman. Mais effectivement, la compréhension de cette vengeance est un élément qui suit effectivement le climat et qui est principal dans ce roman.
Et on se doute aussi que derrière le fameux blizzard dont on a très peu parlé, mais finalement il est aussi très peu présent d'une certaine manière dans ce premier tome, pourquoi ce fameux blizzard n'est pas éliminé comme on pourrait le penser d'un magicien dans ce contexte-là, mais pourquoi est-ce que finalement on l'a capturé?
Oui, Blizzard c'est un personnage. Alors, on pourrait penser que c'est le personnage principal du roman, étant donné que c'est le nom. Hein, mais en fait, c'est une sorte de jeu de mots. C'est-à-dire que Blizzard, c'est effectivement le climat, mais c'était le nom de ce personnage. Mais en réalité, c'est le personnage principal. Et pareil, on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas vraiment qui il est. On ne sait pas quel rôle il va jouer. Et on le voit très peu dans ce roman. Mais en fait, ce que je voulais, c'est qu'au fur et à mesure des tomes, on sent que c'est le personnage principal par l'ambiance, par l'atmosphère. Enfin, comment l'expliquer ? C'est le spectre de Blizzard qui traîne.
C'est lui qui a les réponses.
C'est lui qui a les réponses. C'est lui en fait qui est l'instigateur de tout. C'est lui qui sauve tout. Et ça, on le voit. On va surtout le comprendre effectivement au deuxième tome. On sait pourquoi il va s'appeler Blizzard. Il y a pas mal de symboles effectivement sur. Il y a quelques scènes en fait qui vont vraiment expliquer pourquoi ce monde est appelé Blizzard et comment son surnom, parce que ce n'est qu'un surnom, lui a été donné, et comment il détient les clés de cet univers, comment il en est l'instigateur et comment il va tout résoudre.
Eh bien, on arrive au terme de cette rencontre. Vous voyez qu'on a quand même d'infinies possibilités autour de cette vengeance qu'on peut les étaler sur différentes longueurs, que ce soit un tome pour Thomas, parce que finalement, les deux tomes sont tellement différents que c'est vraiment plus un diptyque, hein, c'est un jeu de miroir presque. Et que ce soit une trilogie ou que ce soit donc une fameuse beaucoulogie avec le royaume de Pierre Pével. Et vous verrez ces vengeances s'exercer de telle ou telle manière. Et vous avez bien compris que rien n'est vraiment tout blanc et rien n'est vraiment tout noir. Et quand je dis tout blanc, si, peut-être un peu quand même dans Blizzard, au moins pour l'univers. Merci beaucoup. Et puis bonne journée, bonne dernière journée aux Imaginales à vous tous. Et merci d'avoir été présents si tôt ce matin.